Bonjour à tous, mais soyez les bienvenus, hein. Que nous puissions vraiment passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Donc ce matin, je vais devoir entendre tout le monde chanter, hein. Ok, est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Seigneur, c'est encore un jour de joie pour nous. À chaque fois, Seigneur, que nous nous assemblons en ton nom, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur Dieu, parce que nous pouvons, Seigneur, déjà nous voir, Seigneur, nous saluer, Seigneur, et passer un excellent moment dans ta présence, tous ensemble. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as délié nos pieds ce matin, Seigneur, en dépit des circonstances, éternel Dieu, tu as délié nos pieds pour que nous puissions vraiment venir t'adorer, te louer, Seigneur, dans ta maison. Alors, merci, Seigneur. Merci Seigneur pour la santé que tu préserves à chacun des frères, chacun de nos amis visiteurs, éternel Dieu, qui leur permettent Seigneur de pouvoir venir, Seigneur, ici, Seigneur. Que tu puisses encore les préserver de leur santé, éternel Dieu, et les fortifier. Et bénis Seigneur tous ceux qui sont fragiles, Seigneur, qui ne sont pas là, éternel Dieu. Que tu puisses encore permettre, Seigneur, qu'ils puissent avoir un culte, Seigneur. Qu'ils puissent prendre ce temps, Seigneur, à passer dans ta présence, Seigneur. Pour te remercier. En tout cas, Seigneur, nous voulons vraiment te rendre un culte qui te soit favorable, éternel Dieu, qui se soit agréable, que tu puisses prendre part, Seigneur, à ce moment, Seigneur, que nous t'offrons, Seigneur. Nous voulons lui répandre comme un parfum d'excellente odeur devant toi. Alors, Seigneur, reçois, Seigneur, notre louange, reçois notre adoration, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vraiment nous encourager à croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est parce qu'il est le seul qui s'est donné pour nous. Il est le Fils de Dieu. Il est le véritable. Lui seul, par son acte d'amour, nous a sauvés. Et à y réfléchir, personne ne nous a aimés autant que Jésus, autant que Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, il a donné Jésus. Et Jésus, par obéissance, il s'est livré aussi pour nous. Et on ne se rend pas compte que lorsque Jésus s'est livré, c'est que lui qui était la personne la plus sainte que toute la terre n'avait jamais connue, hein, il n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui, en fait, s'est revêtu de nos péchés. Alors, pas ceux d'hier, pas seulement ceux d'hier, mais ceux aussi d'aujourd'hui et ceux de demain. Et si se mettre devant, c'est voir l'avenir, ben, pour ceux qui vont arriver aussi, pour ceux qui vont arriver. Et c'est ce que Jésus a fait. Et est fait encore, toujours, en chacun, pour chacun de nous. Et il a toujours ce bras, en fait, grand ouvert pour pouvoir nous accueillir encore aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment déjà merveilleux. Et à y réfléchir, personne n'a fait ça et ne fera ça, ne sera pour moi. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que aussi nous croyons en Dieu. N'est-ce pas? Il y a le verset dans Jean 11, au verset 40, qui dit que si tu crois, tu verras la gloire de qui? Voilà, c'est bien, il y a une église. Voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc, ce qui veut dire que nous qui croyons, est-ce qu'il y a de ceux qui croient? On peut lever la main? Super. Eh bien, ce qui veut dire que vous avez vu la gloire de Dieu. Alors, c'est pas si tu crois, là, maintenant, parce que vous avez cru, vous voyez la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux aujourd'hui. Et nous devons aussi rendre gloire à Dieu, donner gloire à Dieu. Et donner gloire à Dieu, c'est aussi manifester de l'amour. C'est aussi manifester aussi son amour. Cette semaine, nous avons été interpellés, en tout cas, j'ai été interpellé par l'amour. Et pour couronner le tout, en cellule de maison, nous avons parlé d'amour. C'est quoi comme Dieu ne fait pas les choses au hasard? Il y a un message pour chacun de nous. Et je voudrais vous dire en fait que si nous nous rassemblons aussi aujourd'hui, c'est parce que nous nous rassemblons parce que nous aimons Dieu. Et parce que lui-même nous a donné son amour, n'est-ce pas? Et hier, je partageais avec le groupe que Dieu a versé son amour dans notre cœur, selon Romains 5, verset 5, que Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit. Donc, si Dieu a versé son amour dans notre esprit, nous aussi, nous devons aussi manifester de l'amour, parce que l'amour de Dieu demeure en nous. Et donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que nous soyons prompts au pardon aussi. Et j'ai été interpellé il y a plusieurs temps sur le fait de pardonner. En dépit des blessures que nous puissions avoir, en fait, et il faut que nous ayons un cœur disposé au pardon. Et pardonner, c'est aimer également. Et nous devons pardonner. Et l'amour, en fait, ne doit pas dépendre des circonstances. Et en cellule de maison, nous avons parlé de que l'amour était quelque chose qui devait être hors limite. Hors des limites du foyer, hors des limites des collègues, hors des limites. Ça ne devait pas avoir de limites. C'était aimer sans condition. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je n'ai pas seulement aimé ma sœur Anaëlle parce que elle chante avec moi et dans le même groupe que moi. Voilà, ça peut être des fois facile parce que je n'ai pas trop de liens directs, mais en même temps, elle est avec moi. Je ne dois pas seulement l'aimer, seulement elle, mais je dois aussi aimer avec ceux avec qui j'ai du mal aussi à marcher au quotidien, ceux qui n'ont pas forcément les mêmes convictions que moi, et ceux avec qui je ne serais peut-être jamais d'accord sur le mode de vie, mais je dois les aimer parce que Dieu les a aimer. Et lorsque nous sommes là, nous aussi, nous devons déjà nous aimer les uns les autres. Et plus nous allons nous aimer, en fait, plus nous allons manifester aussi la gloire de Dieu. Parce que nous avons cru en lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour continuer à voir la gloire de Dieu, pour continuer à marcher dans sa gloire, il faut avoir ce cœur disposé encore à l'amour. Et je voudrais vraiment que nous puissions vivre cette louange de cette manière. Demandons à Dieu, toi qui nous as aimés, de encore nous permettre de manifester aussi son amour. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous lever, vous allez chanter avec moi ce chant. Et c'est un chant que nous connaissons tous, mais vraiment tous. Et je voudrais qu'on chante comme un seul cœur. À celui qui nous aime, selon Apocalypse 1, verset 5 à 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Thank you. pas à nous, non pas à nous, mais c'est à ton nom seul que nous donnons gloire. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, et d'un amour inconditionnel, Seigneur. Et si nous avons encore du mal à te voir tel que tu es, à te voir dans tout ton amour, Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs, éternel Dieu. Car nous avons soif, Seigneur, de te voir, soif de te toucher. Révèle-nous, Seigneur, toute la dimension, Seigneur, de ton amour. Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui est notre secours. Mon secours est en l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Nous n'avons nul autre recours qu'à toi, Éternel Dieu. Lorsque nous sommes dans la détresse, c'est à toi que nous crions. C'est toi, Seigneur, qui nous aime, Seigneur, au point de venir nous secourir même dans les pires situations, éternel Dieu. Parfois que nous-mêmes avons généré. Mais tu es tellement amour, Seigneur Dieu, que tu viens nous sauver. Tu es notre héros. Tu es notre salut. Par toi, Seigneur. Jésus. Je lève les yeux.
Thank you.
l'éternité, je veux que tu règnes, Seigneur. Alors reçois ma vie, éternel Dieu. Je veux que tu règnes, Seigneur, en moi. Parce que tu es le Dieu de grande miséricorde. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu sauveur. Et c'est pour toutes ces raisons, Seigneur, que je veux encore t'adorer, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, tu viens me secourir. Alors Pardonne-moi toujours avoir ton nom sur mes... Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, tellement. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, vraiment, c'est auprès de toi, Seigneur, que se trouve la source de la vie. Et c'est auprès de toi, Seigneur, que nous voulons rester. Parce qu'il y a d'abondantes joies, Seigneur, dans ta maison. Et un jour, dans tes parvis, vaut mieux que vraiment 1000 ailleurs. Tu es notre préférence, Seigneur. Tu es notre préférence, Seigneur. Tu es le seul qui règne en nous, et tu es le seul qui doit régner en nous. Alors, Seigneur, permets-nous encore de te rester fidèle et de te rechercher à chaque instant. Et que nos vies, Seigneur, quand tu les regardes, Seigneur, puissent être agréables, puissent être des parfums, Seigneur, de bonne odeur devant toi. soit adoré, Seigneur, et que nos lèvres, Seigneur, ne puissent jamais tarir, Seigneur, de louange et d'adoration pour ta personne. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Oui, Seigneur, tu es notre amour, tu es notre pardon, tu es notre puissance, tu es notre force, tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Bonjour, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, de nous rassembler pour le célébrer et pour le glorifier. Et que chaque dimanche, que nous puissions apprécier la grâce que Dieu nous fait. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier. Quand nous recevons les nouvelles des églises persécutées dans le monde, nous le recevons avec beaucoup de cœur serré parce que nous réalisons que d'autres dans le monde, des croyants, n'ont pas cette possibilité de se réunir parce que leurs vies sont menacées par les autorités de leur pays à cause de leur foi. Mais nous, aujourd'hui en France, nos vies ne sont pas menacées par nos autorités. Au contraire, nos autorités font tout pour préserver nos vies. Par contre, la situation sanitaire de notre pays fait que plusieurs de nos frères, plusieurs de nos églises sont fermées. Que ce soit dans l'Oise, que ce soit dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, que ce soit dans l'Essonne, que ce soit même ici à Créteil aussi. Une église sœur n'aura pas de culte ce matin, n'est-ce pas? Et nous voulons prier que Dieu fasse grâce. Que tous ces frères et sœurs qui sont restés chez eux, que Dieu les porte. Que ce soit pas une marque de peur. Que ce soit plutôt une marque de sagesse. Que nous puissions dire merci Seigneur, parce que tous ces responsables d'église, chacun prend des dispositions en conformité avec ce qu'il reçoit de Dieu et pour être en sagesse aussi avec notre société. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour toutes les églises de la France qui ce matin peuvent se réunir pour te célébrer. Le culte n'est pas une option pour nous. Elle fait partie de nos vies. Le culte est quelque chose de vital dans notre communion avec Dieu. C'est pour cela que si les conditions ne sont pas extrêmes, nous faisons notre effort pour venir te célébrer. Car c'est ce que tu nous demandes, notre roi. Et nous pouvons comprendre tous nos bien-aimés, pasteurs, frères et sœurs qui sont chez eux aujourd'hui et qui ne peuvent pas se rassembler parce que la situation du pays est ce qu'elle est. Nous te bénissons pour leur vie. Car nous avons cette conviction que ce n'est pas par peur, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils sont attachés à toi aussi bien que nous sommes attachés à toi. Merci de les porter là où ils sont, dans leur maison, dans les lieux où ils ont pu avoir un culte de famille, que ta présence leur fasse du bien, notre Dieu. Et qu'au-dessus de tout cela, nous te confions notre pays, te confions la France, dans cette situation sanitaire. Nous n'avons pas peur. Nous te connaissons. Toi qui guéris les nations. Tu dis, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et l'Église de France t'invoque depuis cette situation avec la conviction que tu répondras à notre Dieu. Béni sois-tu de prendre soin de tous ceux qui sont touchés par la maladie dans les hôpitaux. Seigneur, nous te les confions. De tous ceux qui sont contaminés, qui ont peur, montre-le que tu es un Dieu. Le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espoir. Montre-toi à eux que ce soit un temps où ils peuvent réfléchir à Dieu et que toi, tu peux t'approcher d'eux, notre Dieu. Nous te bénissons pour ce temps de culte. Merci pour cette louange qui est montée à toi, pour nos cœurs qui ont été étreints, portés dans cette adoration et dans cette louange. Et nous voulons partager ta parole maintenant. Rends nos cœurs encore sensibles et que chacun de nous, chacune de nous puisse recevoir une parole pour lui, pour elle ce matin, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin, nous avons une thématique, c'est vrai, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et peut-être faire un petit temps d'arrêt pour regarder quelques textes en partant de l'Ancien Testament, un texte de l'Ancien Testament, et en venant dans le Nouveau Testament, des paroles fortes de Jésus, notamment sur ce contexte qui est un contexte, oui, où Jésus parlait de l'après la vie. Après la vie, où Jésus parlait clairement d'après la vie, notamment de la mort, mais bien sûr du ciel, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, on a ce texte, n'est-ce pas? Le texte de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, vous savez que ce livre, l'un des auteurs, en tout cas, l'auteur le plus prolifique et le plus éloquent de ce livre, c'est Salomon. Et Salomon écrit des notes de sagesse qu'il nous laisse, n'est-ce pas? Et dans ce chapitre 7, il dit notamment ceci. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné. Et le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. J'aime la fin, car avec un visage triste, le cœur peut être content, n'est-ce pas? Ça nous rappelle une parole forte de Jésus. Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix, car ma paix ne dépend pas des temps et des circonstances, parce que je suis celui qui vous garde, même dans les temps d'épreuve. Amen. Mieux vaut un bon renom, dans d'autres versions, c'est mieux vaut une bonne renommée qu'un parfum raffiné. Je ne citerai pas de nom de parfum raffiné, vous en connaissez certainement, n'est-ce pas? Et le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Pourquoi il dit ça? Il dit ça, pas parce que la mort est mieux que la naissance, mais il dit, si à la fin de ta vie, tu as une mauvaise renommée, alors que tu as bien commencé, c'est dommage. C'est pour ça qu'il dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Il dit simplement, c'est pas le départ d'une vie qui compte. C'est la fin d'une vie. N'est-ce pas? Et on le dit souvent dans un adage populaire, c'est pas le départ de la course qui compte, c'est l'arrivée. Il dit, quelqu'un peut commencer en trombe, mais ne pas finir la course. Surtout si c'est un marathon, tous les bons marathonneurs savent qu'il faut pas commencer en trombe. Faut avoir un bon rythme. L'essentiel, c'est d'arriver au bout de la course. Il dit, mieux vaut une bonne renommée dans la vie. Mieux vaut constamment avoir une bonne renommée. La renommée, c'est pas le prestige dont il parle. La renommée, c'est d'abord devant Dieu. Il dit qu'il faut être quelqu'un de sage aux yeux de Dieu, quelqu'un qui fait du bien dans la société, plutôt que quelqu'un dont l'apparence est plutôt belle, dont les odeurs sont plutôt bonnes, mais qu'au fond, il n'est pas en odeur de sainteté, un, avec Dieu, et de deux, les gens trouvent qu'il est hautain, qu'il est orgueilleux, qu'il ne parle à personne. Comme les jeunes disent, voilà, qu'il se fait un peu la grosse tête. Et Salomon est bien placé pour le dire, parce que c'est quelqu'un qui a côtoyé les signes de la richesse et de la noblesse. Il sait ce que ça peut envoyer. Il sait comment une situation sociale qui s'améliore peut vous prendre la tête. Il dit, quelles que soient ces conditions-là, gardez la tête sur les épaules. Gardez la tête sur les épaules. Il dit, parce qu'au bout du bout, deuxième chose, pourquoi mieux vaut se rendre dans une maison de deuil plutôt que dans celle d'un festoir? Il dit, parce qu'en fait, dans une maison où on pleure quelqu'un, là, on se rend compte que mince, ah, la vie a quand même une fin. On dit, ah, il est mort trop jeune. Ça fait réfléchir. Ah, il a eu une belle vie. Il est mort à 100 ans. Oh, il a vécu longtemps. Ça me fait réfléchir. Et quand c'est un petit enfant qui part, tu dis, oulala, c'est difficile, c'est douloureux. Au point où même l'Assemblée nationale française a légiféré pour que dans ce genre de situation, les parents aient plus de temps de congé. Parce qu'un petit qui n'est pas venu au monde et qui est parti trop tôt, ça interroge. Ça perturbe la vie des parents. Il y a plein de pourquoi. Il n'a même pas commencé un premier jour de vie. Mince. Il dit, ça interroge, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit, allons là-bas. En tout cas, l'occasion où la mort se présente à nous avec son visage effrayant, il dit, ça donne de réfléchir sur la brièveté de la vie. Et ça fait du bien plutôt. Parce que si on passe tout le temps à festoyer, en fait, on se soucie pas que finalement, festoyer, c'est bien. Dieu nous donne des temps de joie et de célébration. Mais ça nous perd de vue que de toutes les façons, à un moment donné, on partira. On veut tous partir à 93 ans, 92 ans, 102 ans. Mais chacun de nous a son itinéraire. Je connaissais une sœur. Elle m'a appelé un dimanche matin pour me dire, enfin, son petit-fils m'a appelé, qui ne m'appelait jamais parce qu'il n'était pas croyant. Janine ne m'appelait jamais à cette heure-là. C'était une sœur qui avait 84 ans. Et le dimanche, mon téléphone sonne. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ce petit-fils que j'ai au bout du fil, il dit, ma grand-mère est partie. Elle est partie dans son sommeil. Janine avait témoigné à une femme de missionnaire que ce qu'elle avait demandé à Dieu, c'était parti dans son sommeil. Elle avait des sommeils agités parce qu'elle dormait avec un masque. Elle n'aimait pas trop ça. Elle faisait des apnées du sommeil, donc elle était... Et vers la fin, quand j'allais visiter Janine, elle me disait, Serge, tu sais, je suis fatigué. J'ai envie de partir. Mais elle avait la paix du cœur. Elle était dans le Seigneur. J'ai dit 83 ans. Je suis à la moitié de ça. Donne-moi d'avoir cette foi et cette espérance comme cette femme. Ses enfants n'étaient pas convertis. Ils étaient tous des enfants majeurs. C'était son cœur, ça. Intercéder pour ses enfants. Mais elle dit, j'estime que j'ai semé la graine. Je suis fatigué. Je veux partir. C'est pas juste quelqu'un de suicidaire, c'est quelqu'un qui sait son espérance. Quelqu'un qui sait, n'est-ce pas? Et il y a une autre femme qui m'a marqué ces dernières années-ci. C'est la femme d'un collègue que je tairai le nom. Son cancer vers la fin a été fulgurant. Et nous sommes allés la voir, plusieurs collègues, pour prier avec elle. Elle nous a dit, vous savez, après toutes ces années à servir Dieu, je suis en paix. Je suis en paix. J'ai dit à mon Dieu, si c'est mon heure, écoute, pourquoi pas? Mais si tu estimes que j'ai encore des choses à faire, c'est toi qui décides. On ne savait plus quoi prier quand, après cette parole, quand on est parti avec elle. Et le témoignage que son mari nous a donné nous a bouleversés. Elle a préparé ses obstacles, elle a choisi les champs. Parce qu'elle dit, de toutes les façons, on m'a annoncé que les jours qui viennent, je vais partir. Mais je sais où je vais. J'ai l'assurance de mon salut, car mon Rédempteur est vivant. Waouh, je dis. Franchement, je ne suis pas encore là, Seigneur. Mais au moins, tu me donnes ce témoignage qui m'encourage. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? C'est trop tard. Après quoi, c'est trop tard. Pendant qu'on est en vie, on peut encore changer d'adresse, de lieu d'habitation. Mais je vais vous montrer un texte après celui-là qui nous montre qu'une fois qu'on a quitté ce monde, il n'y a que deux adresses possibles. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y a que deux adresses. Mais ces adresses-là, c'est pendant qu'on est ici qu'on les choisit. Ce n'est pas après. C'est pour ça le psalmiste, enfin l'Ecclésiaste, termine en disant, il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Pendant qu'on est en vie. N'est-ce pas? Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Ce qu'il dit, c'est pas qu'il faut être triste, non. Il dit que la paix du cœur ne dépend pas de nos émotions parfois. Hein? Nous, on a une société où tout est plaisir, hein. Mais tu vois des gens qui rient, mais en fait, qui sont malheureux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il était content tout à l'heure. Mais en fait, parfois, voilà. Notre société, on est dans la superficielle. On est dans l'apparence. Et au fond, il y a tellement de cœurs brisés. Il y a tellement de malheureux. Et il dit, le bonheur, donc c'est ça le thème du contentement. C'est ça le cœur. Le bonheur n'est pas d'abord une affaire d'apparence. C'est d'abord une affaire de vie intérieure, de communion avec Dieu. Et lui, il est bien placé pour le dire. Salomon dit, j'ai fait tout ce que je pouvais voir dans le monde. J'ai goûté tous les plaisirs, mais tout cela, ça a été vanité des vanités. Parce que tout ça, à quoi ça m'a servi? Et il peut se le dire, parce que à la fin de cette vie fastueuse, il s'était même éloigné de Dieu. Et s'il nous laisse l'Ecclésiaste ce livre, c'est pour nous dire, écoutez, faites attention. Mon pied a glissé. J'étais sur une estrade et mon pied a glissé. Mais Dieu de mes pères même dans ma déchéance, ne m'a pas lâché. Même si j'aurais pu mieux finir que ça. Vas-y, s'il te plaît. On va passer celle-là, je l'ai expliqué. Et voilà le texte que je vous propose, qui nous montre qu'on n'a que deux adresses quand on a quitté la vie des humains. Luc chapitre 16. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'un habit coûteux et raffiné. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans les flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans le tourment. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoutent. Non, non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Dans l'évangile de Luc, à ce niveau du livre, en tout cas du récit que Luc nous donne de la vie de Jésus, Jésus enchaîne pas mal de paraboles en réponse aux pharisiens. Les pharisiens, c'est des religieux. C'est des religieux qui, à un moment donné, se sont beaucoup égarés de la loi de Dieu, de l'Ancien Testament, et qui ont commencé à avoir une vie non seulement de religieux, mais aussi d'une petite bourgeoisie parmi les Juifs. Et Jésus leur parle de richesse. Et ils sont un peu embarrassés parce que Jésus leur dit, finalement, la richesse n'est pas toujours une bénédiction de Dieu. Ils disent, oulala, celui-là d'où vient-il? Parce que nous, dans l'Ancien Testament, il est régulièrement dit que la richesse est un signe de bénédiction de Dieu. Et si nous sommes riches, c'est parce que nous sommes bénis de Dieu. Et Jésus, tout au long du chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 de Luc, va leur expliquer que la richesse n'est pas toujours une bénédiction de Dieu. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de comment on considère la richesse par rapport à Dieu. Et il va y avoir même un moment fort où Jésus va leur dire, car on ne peut pas servir deux maîtres. Il dit, on ne peut pas servir le Dieu argent et le Seigneur. Parce que soit on va être fidèle à l'un et infidèle à l'autre, soit fidèle à l'autre et infidèle à un. Jésus dit, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire le chrétien, le croyant ne doit pas être riche. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il dit au contraire, c'est vrai que Dieu est la source de bénédiction. Mais si vous prenez l'axiome contraire en disant, parce que je suis riche, donc Dieu m'a béni, il dit, c'est faux. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Dieu bénit avec des conditions sociales et des richesses. Mais par contre, les richesses et les aides sociales n'est pas toujours un signe de bénédiction. Et il donne cette parabole. Il dit, regardez, il y avait un homme riche qui avait tout. Et les signes qu'il donne là, qui avait une vie des habits coûteux, raffinés, c'est quelqu'un qui était dans une aisance sociale, qui avait besoin de rien. et qui festoyait chaque jour. Donc, il y avait les moyens de faire la fête et d'être vraiment quelqu'un, voilà, d'assez aisé. Et de l'autre côté, il dit, il y a quelqu'un qui avait rien. Parce que dans l'Ancien Testament, pour beaucoup de théologiens qui ont détourné le sens de l'Ancien Testament, la pauvreté était une malédiction. Et c'est pour ça que Jésus prend un pauvre dans la parabole. Il dit, de l'autre côté, il y avait un pauvre de chez pauvre, parce que non seulement il était pauvre, mais en plus, il était malade à mourir. Il avait une maladie terrible, purulente, au point où même les chiens venaient lécher ses plaies. Il était couvert d'ulcères. C'était quelqu'un de misérable. Il s'appelle Lazare. Et Lazare est mort. On peut comprendre que Lazare mort le premier, parce qu'avec la maladie, voilà, il est parti le premier. Et Jésus, il ne nous donne pas toutes les explications des images qu'il choisit dans cette parabole. Parce qu'il y a des paraboles qui sont juste des leçons de vie, n'est-ce pas? Où tous les éléments ne doivent pas être expliqués. Les fois où tous les éléments doivent être expliqués, Jésus le fait lui-même. Mais quand même, il dit, les anges sont venus prendre l'âme de ce défunt. Ils l'ont mené dans le sein d'Abraham. Il dit à son tour, comme c'est le passage de chacun des hommes sur la terre, le riche aussi est mort. Il fut enterré. C'est très bref. Voilà. Il n'y a pas d'ange. Il fut enterré. De là où le riche est, le texte dit, Jésus dit, il souffre atrocement et cruellement parce qu'il est de la Guyenne, dans ce qu'on appelle l'Hadès, le séjour des morts, l'endroit où résident jusqu'avant le jugement dernier tous ceux qui n'ont pas été sauvés et qui attendent le jugement final. C'est un endroit déjà de tourment. Il dit, ce riche qui est dans cet endroit, tourmenté, cruellement en souffrance, conscient, donc son âme est consciente, levant les yeux, ah, il reconnaît qui? Il reconnaît Abraham. Pourquoi? Ça veut dire que c'était un enfant qui a été éduqué dans la foi, puisqu'il reconnaît Abraham. Si quelqu'un n'a pas été éduqué dans la foi, il ne peut pas reconnaître Abraham. Il dit, il reconnaît Abraham. Et à côté d'Abraham, ah, il reconnaît même Lazare. Donc Jésus met en scène qu'en fait, depuis tout le temps où il était là, il savait qui était Lazare. Le texte dit quoi? Lazare aurait bien voulu souvent avoir ne serait-ce que des miettes qui tombaient de la table de ce riche. Donc il est bien conscient de qui est Lazare. Il dit, Père Abraham, s'il te plaît, ici je souffre cruellement. Est-ce que tu peux demander à Lazare? Jésus choisit des images très fortes. De mettre le bout de son doigt dans de l'eau, ne serait-ce qu'une goutte d'eau sur ma langue, suffirait parce que je souffre atrocement. Abraham dit, écoute, on ne peut rien y faire. On ne peut pas. Déjà, Abraham dit, réfléchis déjà sur ton sort. Fais passer le film de ta vie dans ta tête, quand même. T'as vécu tout ce temps bien, t'avais tout, t'as jamais souffert. Mais en fait, dans l'histoire que Jésus raconte, c'est pas tant la richesse de la personne qui est en cause. C'est qu'à aucun moment cette personne, aussi religieuse soit-elle, n'avait une communion avec Dieu. Elle se souciait même pas de Dieu. Parce que si elle se souciait de Dieu, elle aurait au moins manifesté de l'amour pour Lazare, qui était un pauvre, dont le texte dit qu'il aurait aimé manger des miettes qui tombaient de sa table. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait certainement la parole de Dieu, mais qui ne la pratiquait pas. Donc, il n'y avait pas de communion avec Dieu. Et c'est ça qui lui vaut d'être dans cet endroit qu'on appelle l'enfer. Et Abraham lui dit, c'est pour ça que tu es là-bas, mon fils. Souviens-toi quand même que c'est pour ça que tu es là-bas. Et même si on voulait, nous, te venir en aide, on peut pas. Parce que entre l'endroit où nous sommes et l'endroit où tu es, il y a un abîme sans fin. C'est-à-dire, il y a un trou sans fin. Il y a une séparation qui fait que on ne peut plus changer d'adresse. Cette adresse-là, une fois qu'on l'a, elle est éternelle. Malheureusement. Deux adresses. Le séjour des morts, la Guéhenne, l'enfer, le paradis de Dieu, dans la paix et la félicité. Il y a que deux. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a que deux adresses. C'est ici qu'on choisit laquelle. On va habiter. Dès que le riche l'a compris, il dit pour moi, ok, j'ai compris que c'est trop tard, c'est foutu, c'est cuit. Je suis terriblement désolé pour moi-même. Mais j'ai encore 5 frères. Père Abraham, j'ai encore 5 frères. Et j'aimerais tellement qu'ils ne viennent pas ici. J'aimerais tellement qu'ils ne viennent pas ici. J'aimerais tellement qu'ils ne viennent pas ici. Parce que mes frères, ils font exactement comme moi actuellement. S'il te plaît, peux-tu envoyer Lazare, peux-tu ressusciter Lazare pour que Lazare aille leur parler? Parce que Lazare, ils le connaissent, ils savent qu'il est mort. Si Lazare ressuscite, ils sauront que Lazare est venu de la mort. Et ils vont changer. Et ils changeront. Et ils changeront. Reviens sur la, s'il te plaît, sur la tableau d'avant. Qui les avertisse pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Non, Père Abraham, verset 20, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Il dit, j'aimerais tellement que mes frères prennent conscience que le modèle que je leur ai laissé n'est pas le bon. Qu'au fond, et Jésus va le dire un peu plus tôt dans le chapitre 15, aussi riche soit un homme, sa vie ne dépend pas de sa richesse, mais de sa relation avec Dieu. Il dit, moi, j'ai pas eu cette relation. Si mes frères peuvent changer de logiciel dans leur façon de voir le monde et s'attacher à Dieu et reconnaître que la parole de Dieu est vraie, mais ils vont pas le reconnaître. Mais si un mort ressuscite, Abraham dit, c'est pas possible. Ils ont qu'à écouter la parole de Dieu. Ils ont qu'à écouter la Bible, Moïse et les prophètes. Il dit, oui, d'accord. Ils savent tout ça, mais ça va pas les faire changer. Il faut qu'un mort revienne de la... Abraham dit, mais si ça les fait pas changer, même si un mort revenait de la vie, ils ne changeront pas pour autant. Parce que c'est pas le mort qui est l'autorité, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Si quelqu'un ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu et que c'est elle qui change la vie, qu'est-ce qui va lui faire changer d'avis? Rien. Dieu peut mettre des opportunités, Dieu peut créer des occasions, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour que la personne se rapproche de la Bible. Mais au final, c'est la Bible qui va la convaincre. Si la Bible ne le convainc pas, c'est pas le salut de Dieu. Dans cette période où nous traversons dans notre pays une forme d'anxiété par rapport à la question de la mort et de la maladie, il est bon de nous rappeler ce texte et de voir le privilège que Dieu nous a offert d'être des croyants. Gloire à Dieu. Dieu m'a fait la grâce. Il a ouvert mes yeux. Je suis dans le bon sens. Je suis dans la bonne direction. Je suis en train d'aller vers l'adresse qui est la meilleure. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce de Dieu. Et j'aimerais tellement que ceux de ma famille qui ne connaissent pas Dieu, comme le riche l'a dit pour ses 5 frères, j'aimerais tellement que ceux de mon pays qui ne connaissent pas Jésus, c'est pour ça que l'Église prie. C'est pour ça que l'Église annonce l'Évangile. C'est pour ça que l'Église évangélise. Pour que tous ces hommes, toutes ces femmes qui ne connaissent pas Dieu puissent entendre parler de lui et tourner leur cœur vers l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en ce moment, j'imagine que tous les aumôniers protestants évangéliques sont dans les hôpitaux auprès de tous ceux qui sont atteints. C'est un peu plus difficile dans notre pays, mais il y a quand même quelques aumôniers qui ont cette autorité par l'État d'être dans les hôpitaux. Aux États-Unis, c'est encore plus visible, où il y a des pasteurs régulièrement dans les hôpitaux, dans les morgues, pour être là, pour que si quelqu'un a besoin, qu'il puisse entendre un évangile de Dieu. Notre responsabilité dans ce contexte de notre pays, c'est d'invoquer Dieu. Seigneur, révèle-toi à tous ces hommes, à toutes ces femmes. Devant cette hantise de cette maladie, révèle-toi, parle à leur cœur. Ecclésiaste chapitre 16, verset 2, mieux vaut être dans une maison de deuil. Parfois, Dieu laisse des occasions, Dieu laisse des situations pour que les hommes aussi se rappellent qu'on est de passage. Mais que ce qui est important, c'est l'adresse finale. Il n'y en a que deux. Mais la meilleure, c'est celle que Jésus va dire. Jean chapitre 14, vas-y. Tu passes celle-là, c'est la meilleure adresse. Jean chapitre 14, versets 1 à 11. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et moi, et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas ce que je suis? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Jésus dit, la bonne adresse, c'est le paradis. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. C'est la demeure de Dieu, le paradis. Il dit, je vais vous préparer une place. Il dit, je ne vous mens pas. Si c'était un mensonge, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vous dis la vérité. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je vous dis que ce paradis existe, c'est vrai. Il dit, ne soyez pas troublés, soyez en paix. Même s'il y a l'épreuve, même s'il y a l'épidémie, même s'il y a des dangers, même s'il y a la mort, ne soyez pas troublés. Mais soyez troublés si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, bien sûr. Mais si vous avez fait la paix avec Dieu, ne soyez pas troublés. Parce que lui, il veille sur nous. Que ce soit maintenant ou après. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en Jésus. Je veux terminer avec ce verset. Que notre cœur ne se trouble point. Ayons confiance en Dieu, ayons confiance en Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit non seulement qu'il veille sur nous, ici, mais que bien plus, il nous prépare une place lorsque le jour sera venu pour nous de rejoindre l'autre côté. C'est maintenant qu'il faut choisir l'adresse. Pour la majorité d'entre nous, nous avons choisi cette adresse. Demeurons sur le chemin qui mène vers cette adresse-là. J'ai envie de choisir une image. Laissons le GPS de Dieu continuer de nous guider vers cette adresse. Gardons cet itinéraire que le GPS de Dieu, qui s'appelle la Bible, nous donne. C'est lui le guide. C'est lui le guide qui nous mène à la bonne adresse. C'est lui le guide. Prions. Te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité de t'entendre nous parler au travers de ce commentaire de ta parole. Ma prière, c'est que tout ce commentaire que j'ai fait sur la base de ta parole, que chacune de mes sœurs, que chacun de mes frères, que chaque personne présente ait pu en tirer bénéfice pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen.